Voilà, alors à la fin de cette première journée, j'aimerais vous poser une question. On n'a pas le temps de faire un sondage, mais la question c'est les 120 ans de Moïse, est-ce que c'est une mort prématurée? Il y a quelques indications, comme vous allez le voir. Bah, on va retrouver un certain nombre de choses que nous avons déjà vues, mais c'est aussi un peu le but de cette dernière conférence en fin de journée. Donc vous le savez, le Pentateuque, la Torah, se termine avec la mort de Moïse. On pourrait même aller plus loin en disant que tout le Pentateuque, d'une certaine manière, est comme une sorte de biographie de Moïse, au moins ce qui concerne le livre de l'Exode jusqu'au Deutéronome, puisque l'Exode commence avec la naissance et puis le Deutéronome se termine avec la mort de Moïse. Donc en fait, Moïse est vraiment la figure centrale, la Genèse étant, et puis on va voir pour quelle raison, une sorte de prologue, on le montrera. Donc ce dernier texte, Deutéronome 34, présente la mort, en effet, de Moïse comme une mort tout à fait exceptionnelle pour plusieurs raisons. Je ne vous lis pas tout le texte. Moïse va monter vers le Nebo. Il regarde tout le pays et Dieu lui dit, voilà le pays que je jurais au patriarche. À ta semence, je le donnerai. Donc, citation grammaticalement un peu curieuse, on y reviendra. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu ne passeras pas. Et Moïse, le serviteur de Yahvé, mourut là-bas, au pays de Moab, sur l'ordre de Yahvé. Il, ça ne peut être que Yahvé, il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, et personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil ne s'était pas affaibli, sa force ne l'avait pas quitté. Je reviendrai sur des problèmes de traduction. Et puis après, on raconte que les fils d'Israël pleurent Moïse, Josué, son successeur, se met en place. Et l'épitaphe, « Il ne s'est plus jamais levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que Yahvé avait connu face à face. » Et puis on rappelle tous les prodiges qu'il avait fait au moment de l'Exode, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que normalement cela n'est pas attribué à Moïse mais à Yahvé. C'est le seul endroit où c'est Moïse qui est l'acteur de tout cela. Donc ce texte, à mon avis, pose trois questions que j'aimerais un peu investiguer avec vous. D'abord, pourquoi Moïse doit-il mourir alors que sa force ne l'avait pas quitté? Ah oui, parce qu'on meurt quand on est vieux. Là, apparemment, ce n'est pas le cas. Pourquoi Moïse doit-il mourir à l'âge de 120 ans, dépassant les Égyptiens de 10 ans? Et finalement, en quoi la mort de Moïse signifie-t-elle une césure? Alors, première question, Moïse était-il vieux quand il mourut? Là, il y a un problème assez intéressant, puisque la mort imminente de Moïse est annoncée au moins quatre fois dans le Pentateuque avant qu'il se réalise au chapitre 34. Parce que déjà, au nombre 27, on a l'ordre de Yahvé à Moïse qu'il va monter sur les Avarim, regarder le pays, et toi, tu seras réuni à ton peuple comme Aaron, ton frère, l'a été. Donc Moïse doit donc monter vers une chaîne de montagnes. Avarim, est-ce que c'est une vraie chaîne de montagnes ou est-ce que c'est seulement un jeu de mots avec la racine avar, monter, traverser? C'est pas très important, c'est probablement plus un mot symbolique. Et ensuite, donc, on précise que Moïse va installer Josué comme son successeur en présence du prêtre Éléazar. Donc on est au chapitre 27 du livre des Nombres. Donc ce soir, regardez un peu dans votre Bible et vous vous rendez compte en fait qu'on est 40 chapitres encore avant la vraie mort de Moïse. Donc il est déjà sur la montagne, mais il doit attendre 40 chapitres jusqu'à ce qu'il meure, ce qui est quand même un peu long. D'ailleurs, ce n'est pas très logique puisque Moïse, entre-temps, va quand même encore faire toutes sortes de choses. Donc, on peut imaginer que ce chapitre 27 du Livre des Nombres a été d'abord, en effet, conçu comme étant la fin du Livre des Nombres pour être suivi immédiatement par le récit de la mort de Moïse. Mais ensuite, on a en effet rajouté d'autres choses encore au rouleau des nombres, ceux qui ont suivi les cours sur les nombres se souviennent. Donc, lorsque le rouleau des nombres a été augmenté, et le grand discours du Deutéronome ajouté comme finale du Pentateuque, l'annonce de la mort imminente de Moïse se trouvait quelque part déplacée. Et donc, du coup, on a encadré le grand discours de Moïse, son testament, dans le livre de Deutéronome, par deux autres annonces, comme quoi il va monter sur Pisga, maintenant, en Deutéronome 3, et encore une fois, en Deutéronome 32, où on répète avec quelques précisions, encore une fois, cette même ordre. Mais ce n'est pas la seule chose. Avant le chapitre 32, nous avons encore le chapitre 31, où c'est Moïse lui-même qui vient adresser ses paroles à tout Israël et leur dit « J'ai aujourd'hui 120 ans, je suis plus capable de sortir et de rentrer. » Et Yahvé m'a dit « Tu ne passeras pas ce Jourdain que voici. » Alors ici, contrairement aux annonces, aux autres annonces de sa mort, Moïse est présenté comme étant vieux, c'est-à-dire ne plus capable d'accomplir ses fonctions militaires. Sortir et rentrer, faire sortir, faire rentrer, c'est en effet un terme technique pour un chef militaire qui doit en effet mener son peuple dans la bataille et puis de le faire rentrer. C'est exactement aussi la tâche qui est en effet attribuée à Josué en Nombre 27 lorsqu'il est déjà établi comme le successeur de Moïse. Donc, en Deutéronome 31, Moïse se présente en effet comme étant trop vieux pour continuer à accomplir ses fonctions. Mais cela, en fait, est contredit par le narrateur de Deutéronome 34, qui nous dit très clairement « Son œil ne s'était pas affaibli, sa force ne l'avait pas quitté. » Bon, je vous fais grâce des problèmes de ce substantif « lar » parce que la Septante, en fait, le traduit autrement, soit par les mâchoires ou tout simplement que ses yeux s'étaient pas affablés, ne s'étaient pas corrompus. C'est un mot qui n'est pas très, très fréquent, mais qui probablement signifie quand même, on en a parlé déjà abondamment aujourd'hui, plutôt la puissance sexuelle, si on le compare avec un mot qu'on a aussi à Ougarit. Mais peu importe, malgré ces différences, toutes les versions s'accordent en effet sur l'idée, ici en Deutéronome 34, que Moïse était en pleine forme au moment de sa mort. Et ça, c'est un thème qui sera en effet très important plus tard, aussi dans la géographie chrétienne, où en effet, le corps d'un saint, au moment de sa mort, ne dépérit pas du tout, mais reste beau et ne connaît pas le vieillissement. Bien, alors, si Moïse était en pleine forme, pourquoi doit-il mourir ? Trois explications. Il y a plusieurs explications. Donc, la première, c'est que Moïse va mourir avant l'entrée dans la terre promise, parce que, en effet, il est solidaire, comme d'ailleurs Aaron, de la génération qui avait refusé de conquérir le pays. C'est ce qui est dit en Deutéronome 1, 37, où il est dit « Contre moi aussi, Yahvé s'est mis en colère et a dit « Puisque tu es le chef de cette génération, tu n'entreras pas dans le pays ». La même idée en Deutéronome 3, Moïse raconte qu'il aura fait une demande de Yahvé de le laisser quand même entrer dans le pays, parce qu'il est encore en tellement bonne forme, mais Yahvé aurait refusé à cause de la culpabilité du peuple. Première explication. Deuxième explication, c'est juste le contraire, c'est en Nombre 20. En Nombre 20, on raconte une histoire assez curieuse, où le peuple demande de l'eau, et Yahvé dit à Moïse et Aaron de prendre le bâton, mais là, ce n'est pas un bâton pour s'appuyer, probablement pas encore, mais plutôt pour faire des exploits magiques. Yahvé dit à Moïse, tu parleras au rocher et le rocher donnera son eau. Mais évidemment, comme Moïse a un bâton, il pense qu'il faut frapper le rocher avec ce bâton et parler au peuple. Et à cause de cela, en fait, Yahvé se met en colère et en disant, parce que vous n'avez pas eu assez de foi à moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc ici, Moïse est chargé d'une faute personnelle, bien qu'elle ne soit pas évidente à première vue, puisqu'il a fait quand même jaillir l'eau, mais il n'a pas fait exactement ce que Yahvé lui a dit. Il a frappé alors qu'il aurait suffi de parler, en fait, au rocher. Et Aaron, qui est également concerné, va mourir immédiatement ensuite. Donc la faute est rappelée encore une fois au nombre 27. Et donc, ce que nous avons, en prenant Deutéronome 1, 3 d'un côté, nombre 27, nous avons en effet deux idées différentes sur le fait qu'il faille que Moïse meure avant que la promesse divine ne se réalise, soit à cause d'une sanction collective, soit à cause d'une responsabilité individuelle. Maintenant, si on regarde Deutéronome 34, on est d'autant plus intrigué que le dernier chapitre du Pentateuque ne tranche pas du tout par rapport à ces affirmations contradictoires. On a l'impression que le texte ne veut pas prendre position ou, plutôt encore, proposer une autre explication. Donc, selon Deutéronome 34,5, Moïse meurt littéralement « al pi Adonai », ce qu'on traduit normalement « sur l'ordre de Yahvé ». Les commentateurs rabbiniques ont expliqué cette expression par l'idée que Dieu aura pris l'âme de Moïse en lui donnant un baiser sur la bouche. Ce n'est probablement pas le sens de cette explication qui se réfère plus en effet à une déclaration divine, mais le lecteur peut donc penser soit à l'explication de Deutéronome 1 que Moïse est simplement solidaire de la faute de son peuple, ou à celle de Nombre 20, à savoir que Moïse est individuellement responsable de ce qui lui arrive. Mais en même temps, donc ce sera typiquement pour le dernier rédacteur du Pentateuque une sorte d'idée de compromis, c'est sur déclaration de Yahvé, mais on ne va pas dire laquelle, c'est à chacun de choisir. Mais en même temps, il y a encore une autre chose, c'est que Moïse va mourir en effet, en dehors du pays, afin de devenir un modèle pour la diaspora. Parce que traditionnellement, une des pires choses que puisse vous arriver, c'est de mourir en terre étrangère. Donc, plusieurs oracles prophétiques qui indiquent que c'est une punition très grave, mourir dans un pays impur. Moïse meurt dans le pays de Moab. Ce qui est intéressant parce qu'il ne meurt ni en Judée, ni en Samarie, ce qui peut aussi donc faciliter la double acceptation du Pentateuque comme un livre à la fois des Judéens et des Samarites. Ensuite, nous apprenons que c'est Yahvé lui-même qui enterre Moïse. Dans le Targum, on raconte que Dieu enterre Moïse avec l'aide de trois anges, et que dans sa tombe, en effet, son corps ne s'est pas décomposé, il reste comme il était de son vivant. Une autre tradition qui est attestée par Flavius Joseph, c'est en effet que Moïse n'est pas mort. Il a écrit, Moïse, lui-même dans le livre qu'il était mort, de crainte que par excès d'affection pour lui, on osât prétendre qu'il était allé rejoindre la divinité. Et ça, c'est une interprétation de la mort de Moïse, à mon avis, qui présupposait dans les évangiles, puisque dans les récits de transfiguration, Moïse apparaît avec Élie, et Élie étant en fait, dans la Bible hébraïque, l'autre personnage qui était enlevé directement au ciel et qui n'a pas donc connu le tombeau. On peut imaginer que c'est peut-être aussi cette idée qui se reflète derrière l'expression « personne ne connaît son tombeau ». Alors, soit on veut empêcher tout culte Moïse autour de son tombeau, voire contrer ces croyances populaires selon laquelle Moïse n'était pas mort sur le mont Nebo, mais avait été enlevé au ciel comme Élie. Et je pense que cette croyance a pu naître à cause de l'absence d'un lieu associé avec le tombeau de Moïse. Aujourd'hui, c'est différent. Quand vous avez en Jordanie, vous avez plusieurs tombeaux de Moïse, parce que ça fait toujours vendre toutes sortes de choses. Mais à l'époque, peut-être, cette tradition ne s'était pas encore établie. Donc l'auteur explique cette absence par le fait que, contrairement au cas d'Aaron, seul Yahvé sait où il a enterré Moïse. Donc, la mort de Moïse, qui, selon Deutéronome 34, n'est nullement lié à la vieillesse, a donc de multiples raisons. Expliquer pourquoi Moïse n'entre pas dans le pays, faire de Moïse un modèle pour la diaspora, montrer que la mort de Moïse, d'une certaine manière, est nécessaire pour la naissance de la Torah, et finalement, contrer à une croyance populaire selon laquelle Moïse ne serait pas mort. Reste encore une question, pourquoi Moïse va mourir à l'âge de 120 ans? Dans les conditions de la science actuelle, il semble en effet que 120 ans soit une durée de vie que l'être humain pourra atteindre dans un avenir proche. Peut-être M. Prochon nous en parlera demain. Et la doyenne, je crois, elle a eu, Mme Calmet, 122 ans, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, c'est évidemment aujourd'hui dans l'idée du possible, mais il me semble que cette idée n'était guère dans la tête de l'auteur de Deutéronome 34, qui a dû considérer 120 ans, certes comme une limite, mais une limite exceptionnelle. On le voit dans le psaume 90, qui est en fait le seul texte que le psautier attribue à Moïse. Donc Moïse est censé d'avoir en effet récité ce psaume qui commence d'abord par décrire l'éternité divine, donc 1000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va, et cela est en effet contrasté avec la finitude humaine décrite dans le verset 9 à 10, « Vis devant ta fureur, se fasse tous nos jours, le temps d'un soupir, nous avons achevé nos années, 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie, 80, s'il est vigoureuse, son agitation ne que peine et misère, etc. » Vous connaissez ça. Donc ici, la vie humaine est considérée, comprise comme se trouvant limitée à cause de la fureur de Dieu. Peut-être cette fureur fait allusion au texte que Régine nous a présenté tout à l'heure, à Genèse 3, d'autant plus que le psaume 90 dit au verset 3, « Tu fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, fils d'Adam, retournez-y. » Je crois que c'est quand même une allusion assez claire à Genèse 3. Donc, on a pour le psaume 90, des âges de 70 ou 80, comme considéré comme un âge très haut. Et puis, pour la dernière fois, vous avez ce texte assyrien qu'on a déjà vu plusieurs fois, de Sultan Tepe, donc je ne le discute plus. Le Siracide va encore plus loin, imaginons une vie humaine à 100 ans, mais ses espérances de durée de vie dépasse évidemment de loin la durée moyenne, donc également on a discuté longuement entre 20 et 40, c'est pas la peine que je reprends cela. Alors revenons plutôt à 120. Alors évidemment, les 120 dépassent les 110 ans accordés aux hommes sages d'Égypte et également évidemment dans la Bible à Joseph. Et à Joseph, il faut encore ajouter Josué, parce que Josué, le successeur de Moïse, a également 110 ans au moment de sa mort. Donc Moïse est en fait encadré d'une certaine manière par Joseph et Josué. Mais ce qui est important, c'est que le Deutéronome 34 a aussi la fonction en fait de renvoyer au début de la Genèse. Donc d'abord avec cette citation de la promesse du pays, qui est un peu curieuse parce que c'est le pays que je promis à Abraham, Isaac et Jacob en disant « à ta descendance je le donne », donc c'est un singulier. Pourquoi un singulier? Puisque c'est une citation en fait de la première promesse du pays qui est faite à Abraham. Donc c'est un rappel en fait du début de l'histoire patriarcale, et les 120 ans ont une fonction tout à fait comparable, puisqu'ils renvoient à Genèse 6, 1 à 4, une histoire assez curieuse où, en effet, les fils de Dieu ou des dieux s'unissent aux filles des hommes. Et à partir de cela, il avait dit « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs. Il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Et après, on dit que justement, il y avait toutes sortes d'êtres bizarres, les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Un passage qui a en effet des parallèles dans le livre de Hénoc, dans la partie la plus ancienne, le livre des veilleurs, et probablement Genèse 6 présuppose déjà ce texte. Donc ce que nous avons là, évidemment, c'est des thèmes mythologiques courants qui mettent en scène des unions sexuelles entre les dieux et les hommes. La figure de Gilgamesh qui a deux tiers divin et un tiers humain, et bien d'autres dans la tradition grecque, etc. Elle a été insérée probablement ici, puisque le rédacteur qui se servit de ce texte a considéré, en effet, que la durée de vie des patriarches avant le déluge était une durée de vie totalement démesurée. Donc vous connaissez ces durées-là qui vont en effet jusqu'à Mathusalem, 969 ans, mais qui sont évidemment rien par rapport à la liste des rois, la liste sumérienne des rois qui ont régné. Donc 43 200 ans, c'est pas mal. Hein. Mais je pense... Ce que veut dire notre texte en Genèse 6, c'est que la vie humaine va désormais être limitée à 120 ans. Est-ce une insertion dans le texte ou est-ce que ça fait partie de ce texte ? Ce n'est pas très, très important. Je pense que ça se comprend très, très bien ensemble. Et l'idée étant en effet de montrer que le déluge met fin à ces durées de vie incroyables, parce que si vous regardez ce tableau, vous voyez que le dernier, donc Methusalem, vit jusqu'à au moment du déluge. Alors je vous fais grâce des différences entre les textes grecs, samaritains et massorétiques, ça c'est le texte massorétique, mais c'est quand même l'idée que c'est une césure très claire qui intervient au moment du déluge. La limitation de l'âge humain à 120 ans se heurte cependant à l'âge des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, puisque pour eux, la durée de vie dépasse les 120 ans. Ils ont d'ailleurs en effet une sorte de spéculation numérique assez intéressante, parce que chaque fois, ben là, vous arrivez au chiffre 17, et puis le chiffre 17, c'est justement l'âge de Joseph au moment où commence sa carrière en Égypte. Mais peu importe. Comment expliquer que ces âges dépassent la limitation de la vie à 120 ans ? Est-ce que le rédacteur de Genèse 6 n'était pas assez attentif ? Est-ce qu'il n'a pas connu ces textes ? Ou, et ça me semble une explication plus logique, que pour lui, en fait, l'âge des patriarches n'était pas encore vraiment considéré comme faisant partie de l'âge des humains. Les patriarches appartiennent encore au passé mythique ou épique. Ils ne font pas partie de l'âge historique et constituent donc une période intermédiaire entre les mythes des origines et l'histoire des Israélites. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la durée de vie de 120 ans, Moïse, en fait, est dans toute la Bible le seul personnage qui atteint cet âge. Donc, on pourra dire, comme l'a dit un commentateur juif, Benno Jacob, il a dit « Moïse, même au moment de sa mort, accomplit fidèlement la Torah », puisqu'il était dit « Voilà, ce sera 120 ans », et évidemment, Moïse va mourir à 120 ans. Mais de toute façon, c'est Alpi Adonai, il n'y a pas de problème. Alors, le nombre 120 Il n'est pas très très fréquent dans la Bible. On le trouve par exemple dans Daniel, où il y a 120 attrapes. On le trouve aussi dans les Actes. Et puis souvent, c'est une sorte de nombre de plénitude qui apparaît pour des dons qui sont faits de la décoration du temple. On peut imaginer qu'une telle utilisation a inspiré aussi le rédacteur de Genèse 6:3. Et de Deutéronome 34, 7. Et puis, ce qui est intéressant encore, c'est que, selon Hérodote, en fait, les Perses auraient eu une vie limitée à 80 ans et qui auraient été très intéressés par les Éthiopiens, mais c'est des Éthiopiens très mythologiques, hein, qui, eux, justement, auraient réussi à vivre jusqu'à 120 ans. Alors, est-ce que ce rédacteur est un lecteur de Hérodote? C'est pas à exclure, hein, mais voilà. C'est une hypothèse qui m'est venue hier soir, donc je l'ai rajoutée, c'est un ajout. Mais je pense qu'il y a quand même une autre raison encore pour les 120 ans. Et c'est en fait la répartition de la vie de Moïse en trois générations. Hein. Selon Exode 7, Moïse avait 86 lorsqu'il commence les négociations avec Pharaon. Et selon Exode 2, Moïse avait grandi lorsqu'il tue un Égyptien. Il n'est pas dit qu'il avait 40 ans, mais les Actes des Apôtres le disent. Les Actes des Apôtres le disent. D'ailleurs, ils reprennent en fait ce thème aussi en précisant qu'il avait 80 ans au moment des plaies, etc. Donc, ce qu'on observe ici, c'est clairement une volonté de structurer la vie de Moïse en trois quarantaines, 40 en Égypte, 40 en Madian et 40 dans le désert jusqu'à sa mort dans les plaines de Moab. Et cette tripartition de la vie de Moïse est donc très fréquemment aussi attestée dans la tradition midrashique et rabbinique, 40 étant donc du coup en effet la durée d'une génération. Donc par conséquent, les 120 ans de Moïse indiquent que la durée de sa vie aurait compris trois générations. Et ça, je laisse juste lire une citation de Basilée de Césarée. Marguerite Arles a montré en effet que ce thème de trois générations sera repris ensuite dans le milieu monastique syrien qui en effet utilise cela pour les trois phases de la perfection. Dans le Pentateuque, les 120 ans de Moïse en fait structure le livre de l'Exode jusqu'au Deutéronome dans un cadre chronologique de trois générations. Et très brièvement, la mort de Moïse, une césure. Bien que Deutéronome 34 mentionne Josué, le récit de la conquête n'a plus le même statut que l'histoire de Moïse, du Pentateuque, ce qui est clairement exprimé par l'épitaphe « Il ne s'est plus jamais levé en Israël un prophète comme Moïse ». Ça veut dire aussi qu'avec ça, on va faire une séparation très claire entre la Torah, le Pentateuque et les livres suivants. Et cette césure aussi se fait remarquer par l'âge des personnages, puisque aucun autre personnage dans les livres prophétiques n'atteint les 120 ans de Moïse. Celui qui arrive le plus proche, c'est Josué, qui arrive à 110 ans, mais les rois d'Israël de Juda ne dépassent plus les 70 ans, les 70 ans, pardon. Et ça, c'est le cas pour David, qui est le seul, en fait, d'arriver aux 70 ans, d'où ma question de ce matin. Parce que si vous regardez les autres rois, je vous montrerai tout de suite, ils ont des durées de vie beaucoup moindres. Donc, et ce qu'on a vu aussi ce matin, contrairement à Moïse, 1 roi 1 va décrire en détail en fait un David vieux, affaibli, sans puissance sexuelle, ce qui n'est pas du tout le cas de Moïse. Donc là, vous avez le calcul de l'âge des rois judéens, toujours avec un peu d'incertitude, mais donc on arrive à une durée, âge moyen de 50 à 52 ans, ce qui paraît relativement réaliste pour des dirigeants. On a aussi parlé de cela. Voilà. Donc les 120 ans de Moïse restent dans la Torah et les Névi'im un âge tout à fait exceptionnel qui n'est pas égalé dans la suite de la narration de l'Énéatique. Il y a un autre personnage, mais je ne vous le dis pas, vous pouvez réfléchir à un personnage dans les Ketuvim qui va dépasser Moïse, et c'est sans doute à Ession, mais je ne vous donne pas la réponse, comme ça vous réfléchissez et vous me dites la réponse demain matin. Voilà, donc il garde aussi une dimension eschatologique qui se fait jour dans l'attente prophétique qu'il n'y aura plus de nourrissons emportés quelques jours. Ce texte, Ésaïe 65, je ne vous le lis pas. Aujourd'hui, les 120 ans, c'est peut-être devenu une réalité qui s'approche donc des 120 ans de Moïse, mais pas encore de son état, car selon Deutéronome 34, il était en pleine forme au moment de sa mort. Pour la Bible, c'est un signe du statut entièrement à part de Moïse. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques pensent qu'on pourra bientôt égaler cette situation, mais ça, c'est une autre histoire. Merci.